Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
On quitte l'Est pour les États-Unis avec Richard Powers qui publie L'Arbre Monde. Bonjour Richard Powers. Bonjour. Vous êtes écrivain et je vais tenter de dire quels sont quelques-uns des thèmes sur lesquels vous avez écrit. Mais tout d'abord, j'ai lu une bonne nouvelle hier dans le New York Times. Votre nom est cité dans la shortlist, la courte liste du Man Booker Prize, qui est le plus prestigieux des prix littéraires américains. Quel effet ça vous fait ?
Merci beaucoup. C'est enthousiasmant, je dois dire. It's very exciting.
Vous êtes traduit par Maître Zlotowski, comme on va l'entendre.
Bonjour.
Vous n'êtes pas né écrivain, vous êtes né scientifique. Et finalement, c'est quasiment un hasard qui a fait de vous un écrivain. Un hasard, ou plus exactement, une photo. Racontez-nous comment vous en êtes venu à prendre la plume, Richard Powers.
It's true that I did study
C'est exact, j'ai étudié les sciences à l'université, et tout particulièrement la physique. J'ai toujours pensé que je finirais comme un scientifique de profession, mais j'étais séduit par les possibilités de la littérature quand j'étais à la fac. Une des raisons pour cela, c'est que j'avais tellement d'intérêts intellectuels qu'il m'était difficile de me spécialiser. Et en littérature, j'ai trouvé un endroit où on ne devait pas obligatoirement sélectionner, choisir une petite partie du monde sur laquelle porter son attention. Et ça m'a permis, pendant un certain temps, de rester un généraliste plutôt qu'un spécialiste. Après avoir quitté la fac, j'ai commencé à travailler comme programmeur informatique pour garder un toit au-dessus de ma tête et continuer mon travail intellectuel. Et quand je vivais à Boston, dans ce milieu de programmeurs professionnels, j'ai rencontré la première rétrospective d'August Zander, le grand photographe du XXe siècle, photographe allemand. Et j'avais pas de préjugés en rentrant dans cette exposition. Je suis allé, j'ai tourné le coin, et la première photo que j'ai vue, cette célèbre photo de ces trois jeunes hommes qui allaient au bal, quelques semaines avant le début de la Première Guerre mondiale. Et c'est comme si cette photo m'avait attendu 75 ans pour terminer la vision. Je vois ces trois jeunes gars qui regardent par-dessus leur épaule, qui regardent directement dans l'objectif de l'appareil photo. Et moi, voilà, j'étais là à l'autre bout du XXe siècle, les regardant de l'autre côté, en fermant ce cercle magique. Et dans ce moment-là, j'ai vu une façon de revenir à tellement de mes intérêts intellectuels en sciences et dans la culture. Et j'ai utilisé cette photo comme une méditation sur ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, dans ce premier moment tragique d'un siècle qui allait porter tellement de transformations étonnantes à la culture, à la science, à la vie, et tellement de tragédies. Et tellement de percées pour la condition humaine.
Et ça a donné donc effectivement ce livre « Trois fermiers s'en vont au bal ». C'est quasiment une expérience mystique, la manière en tout cas dont vous la racontez, Richard Powers. Ce choc devant une photo qui fait de vous un écrivain. Auparavant, vous n'aviez pas de rapport particulier à l'écriture ?
Comme tout jeune homme, j'ai écrit un peu de poésie. Mon écriture était très universitaire jusqu'à ce point-là. J'étais musicien. Et ma forme de communication vers le monde s'orientait plus vers la musique que vers le verbe. Et j'ai commencé à trouver ma vocation en tant qu'écrivain de fiction. Elle a été une occasion de de changer ma propre orientation intellectuelle, passant de l'analytique à l'affectif. Et c'est devenu un thème constant dans mes livres, la façon d'unifier une compréhension intellectuelle et factuelle avec l'émotionnel, l'affectif et les caractères aussi dans un monde. Et je crois véritablement que nous fonctionnons mieux au sein du monde quand nous permettons à ces deux façons de connaissance d'entrer en relation l'une avec l'autre, mélanger la tridimensionnalité et cette interaction que nous avons avec le monde.
Vous êtes donc devenu un écrivain extrêmement connu aux États-Unis, Richard Powers. Vous avez beaucoup publié, vos livres ont d'ailleurs eu du succès en France, avec des sujets très éclectiques, donc Trois fermiers s'en vont au bal, on en a parlé sur la Première Guerre mondiale, Le temps où nous chantions un livre pour raconter le racisme aux États-Unis, et puis en 2008, par exemple, La chambre aux échos, où là il s'agit de la paranoïa post-11 septembre 2001. Comment choisissez-vous vos sujets ?
Je ne choisis pas mes sujets. Ce sont mes sujets qui me choisissent. Le processus, c'est que quand je m'embarque pour plusieurs années, 2, 3, 4 ans sur un récit, j'essaie de créer pas simplement un bouquet de personnages qui ont leurs propres problèmes, leurs propres difficultés à interagir les uns avec les autres, mais aussi défiés par certains aspects de la réalité politique et économique et scientifique aussi. J'explore les thèmes et les possibilités de ce milieu-là, laisse toujours des questions sans réponse. Et le livre suivant commence au milieu du livre qui est en cours. Et tous les endroits auxquels je ne peux pas aller avec le thème de ce livre en construction m'amènent à la réponse. Donc il y a, si vous voulez, une reconfiguration infinie d'un travail avec l'autre.
Le livre qui est traduit en français et qui est publié aujourd'hui au Cherche Midi, L'Arbre Monde, est un livre qui parle d'écologie. Dans votre rapport à l'Amérique, il y a quelque chose de singulier, notamment par rapport aux écrivains américains qui sont souvent connus en France, qui sont des écrivains new-yorkais, des écrivains citadins. Vous avez vécu dans des villes, vous n'habitez plus dans une ville aujourd'hui puisque vous habitez dans une forêt. Mais ce qu'il y a de spécifique finalement, lorsqu'on vous lit Richard Powers, c'est que vous vous rattachez à une tradition d'écrivains américains de la nature. Il y en a beaucoup. Alors, on peut citer évidemment Thoreau, Hemingway, peut-être Mark Twain. On en a finalement peut-être un peu moins en France. Est-ce que vous vous sentez justement appartenir à cette tradition-là ?
C'est une question très compliquée, très intéressante. Je suis un urbain par naissance, par expérience, et ce livre a changé ma vie et m'a fait passer à travers le pays dans la forêt.
Ce livre donc, L'Arbre Monde, ce livre que vous publiez en français aujourd'hui.
Oui, la recherche pour ce livre. Mais je crois qu'il serait faux de faire une dichotomie entre l'écriture urbaine et l'écriture rurale. De même qu'on est de plus en plus conscient qu'on ne peut pas parler de la séparation des êtres humains entre être humain et la nature. Toute la leçon des découvertes en écologie et dans les sciences de l'environnement dans les dernières décennies, et en sociologie et en politique aussi, c'est que nous ne sommes pas séparés du monde vivant. Nous croyons que nous le sommes. Nous avons créé ce faux sentiment de l'exception humaine, de l'indépendance du reste du monde vivant. Eh bien, nous découvrons maintenant de façon désastreuse que ce n'est pas le cas. Et ma cause dans ce livre, c'est de ne pas revenir à la nature ou de créer un sentiment de nature sauvage, non touchée par la main de l'homme. Non, c'est un récit de la façon dont l'histoire humaine est inséparable de l'histoire des arbres, de l'histoire de l'interdépendance connectée de la forêt, du monde vivant.
Et justement, ce sur quoi il faut insister, Richard Powers, parmi les écrivains américains, il y a une grande diversité. Vous venez d'ailleurs à la faveur du Festival America, dont nous sommes partenaires, le Festival America organisé à Vincennes. Il y a aux États-Unis un lien spécifique avec la nature, un lien d'ailleurs dont vous témoignez dans ce livre, L'Arbre Monde, avec un rapport aux forêts primaires, un rapport avec des paysages dont l'immensité frappe. Bref, quelque chose qui est vraiment propre à votre pays.
Yes, it's true that there is a deep stream.
Il y a un courant profond d'attention spirituelle aux non-humains aux États-Unis. Oui, vous avez mentionné Thoreau, ça commence avec lui. Et ça s'étend à des personnages extraordinaires comme John Muir, l'Écossais qui vient aux États-Unis et qui vient un prêtre, en fait, pour le monde de la nature. Andrew Leopold aussi pour être cité dans ce contexte. Une partie de la raison pour laquelle ça a été tellement proéminent dans la littérature américaine, c'est que au moment où les Européens arrivaient en Amérique du Nord, il y avait ces énormes, extensives, merveilleuses forêts qui couvraient tout le continent. Et le défi des Européens, qui même, à l'époque du premier contact, se sont construits comme une exception ou comme des créatures indépendantes, arrivaient au contact des Américains indigènes qui vivaient très près de ce pays. Et c'est l'étendue de l'expérience américaine entre cette notion que on peut faire le monde, on peut contrôler, on peut maîtriser le monde, et la réalisation du fait que non, nous sommes simplement une autre partie du monde. Et à moins d'apprendre qui sont nos voisins, comment cet environnement fonctionne, on ne va pas durer très longtemps ici. C'est une leçon qui nous parvient à tous sur tous les continents du monde.
Et du coup, vous publiez là un livre qui est véritablement écologique, qui embrasse. Alors, il y a un terme aux États-Unis, un terme anglais qui n'a pas véritablement son équivalent en français, c'est le terme de wilderness. Et d'ailleurs, je vais laisser notre camarade Zlotowski en faire la traduction. On voit qu'il y a vraiment cette tradition-là aux États-Unis. Je lisais par exemple que le livre The Silent Spring de Rachel Carson, je ne sais même pas comment il est traduit en français, qui est un livre fondateur de l'écologie dans les années 60, est cité comme étant l'un des livres les plus importants par les Américains. Et ça nous frappe parce qu'on n'a pas forcément, nous Français, la vision d'une écologie puissante aux États-Unis, Richard Powers.
Certaines
choses se sont produites au cours des dernières décennies que les leçons de Rachel Carson et toutes les autres voix qui, en français, on dit crier dans le désert, the wilderness. Et je crois que ce livre, c'est l'histoire d'un certain nombre de personnes qui n'auraient jamais eu une conscience environnementale, écologique, qui n'auraient pas été politiques, mais par la vertu de l'étonnante insistance, l'insistance continue du moteur économique du pays d'utiliser ces quelques derniers pourcents des vieilles forêts pluviales, même après que 98% de cet environnement ait été détruit, que ces gens veuillent changer leur vie et vraiment de rentrer dans les tranchées contre la rapacité de l'humain, l'appétit sans fin d'user, d'utiliser, de s'étendre comme si le monde était une ressource. Ces gens politisés commencent à se rendre compte à quel point ils sont dépendants de ces choses qu'ils utilisent et qu'ils épuisent.
Et dans ce livre, effectivement, vous suivez neuf personnages que vous vous attachez d'ailleurs à présenter en premier lieu. Je ne sais pas si ce sont les personnages principaux, parce que les personnages principaux, en réalité, sont des armes. Mais je vais citer, malgré tout, l'un de ces portraits, un extrait de l'un de ces portraits. « Mais on est en Amérique, écrivez-vous, où les hommes et les arbres prennent les chemins les plus inattendus. Hoël plante, arrose et se dit « Un jour, mes enfants secoueront les troncs et mangeront gratis. » Richard Powers, dans ses neuf personnages, ses neuf portraits, il y a à chaque fois un lien particulier avec un arbre.
C'est vrai, ma conception initiale du livre était d'écrire une histoire où tous les personnages principaux seraient des arbres, et que les arbres, pour une fois, fonctionnerait en tant que star dans le monde de la littérature, le rôle qu'il mérite. Mais ça présentait des défis techniques considérables en ce qui concerne la rétention de l'attention d'un lecteur humain. Il y a un moment dans le livre où un des personnages, qui est un spécialiste des arbres, quand elle est jeune, elle apprend de son père, est-ce que ce n'est pas triste que nous, les êtres humains, ne puissions comprendre et nous identifier qu'avec des choses qui nous ressemblent? Mais ce que ma stratégie est devenue, c'était de créer neuf individus qui, pour certaines raisons, ont cette autre présence, cette autre sensibilité, qui sont jetés dans leur vie et qui doivent maintenant comprendre que leur histoire personnelle dépend de l'histoire de ces énormes créatures qui se développent sur des échelles différentes du temps que leur propre vie. Mais vous avez raison, chacun de ces personnages devient associé avec une espèce d'arbre, une essence d'arbre, et peut s'identifier dans une certaine mesure avec quelque chose qui ne leur ressemble pas du tout.
Donc ces neuf personnages vont notamment défendre un séquoia géant, mais vous conférez quasiment des personnalités aux arbres. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces différents arbres que vous évoquez dans l'arbre-monde, le châtaignier, le saule? Comment vous les voyez, Richard Powers?
C'est les restes de mon rêve d'écrire un récit où les arbres seraient les héros. Il y a un châtaignier américain qui a été planté par un immigrant norvégien au centre du grand Midwest dans l'Iowa, et qui se développe pendant deux siècles, pendant que cette famille norvégienne s'élève et chute au cours de ces deux siècles. Il y a un énorme séquoia en Californie qui porte un nom, qui a 2000 ans, et deux personnes qui vivent pendant deux ans dans les branches de ce séquoia pour tenter de le sauver. Et de cette sorte-là, les êtres humains et les arbres se réunissent en une histoire unique.
On continue à parler d'arbres et de littérature en votre compagnie, Richard Powers, dans une vingtaine de minutes. Vous publiez L'Arbre Monde au Cherche Midi. Je précise d'ailleurs que c'est imprimé sur papier éco-responsable, évidemment. Nous recevons Richard Powers, l'écrivain américain. Il publie L'Arbre Monde aux éditions du Cherche Midi. Un roman véritablement écologique. Et puisque votre président Donald Trump n'est pas nécessairement écologiste, d'ailleurs vous avez été prévenu, puisque lors de l'inauguration du festival America à Vincennes, vous venez pour ce festival, Richard Powers. Il s'agit donc d'un festival où l'on reçoit des écrivains américains, et la directrice de France Culture, Sandrine Trainer, vous avez prévenu, vous allez avoir droit à des questions sur Donald Trump. On parlait de la psychiatrisation de la politique. Est-ce une manière aussi de parler de Donald Trump pour vous?
Mon Dieu. Je ne suis pas dans une situation de dire quoi que ce soit sur Marine Le Pen, mais je peux dire quelque chose sur Donald Trump. Si nous avions, nous, un mécanisme pour pouvoir expertiser la santé mentale de quelqu'un qui est dans une position tellement de puissance et qui veut autant exploiter sur une base quotidienne sa puissance. Pour dire vrai, j'aurais pu passer un peu plus de temps à travailler sur ce livre, mais après l'inauguration de Donald Trump et après la rapidité avec laquelle il a commencé à poursuivre et à détruire 60 années de protection environnementale dans mon pays, j'ai décidé de hâter la publication du livre pour que cette demande pour la santé mentale soit mise à l'ordre du jour face à quelqu'un qui est exactement l'inverse d'une personnalité saine sur le plan environnemental. Il y a chez Trump une pathologie persistante. Ça a à voir avec la croyance que un mâle blanc devrait maintenir toute la puissance qui historiquement a été son domaine. Et au cœur du programme de Make America Great, refaites la grandeur de l'Amérique, il y a ce programme qui n'est pas tellement caché de conserver la prédominance des hommes sur les femmes, les blancs au-dessus des autres, l'Amérique par-dessus les autres pays et les êtres humains au-dessus de toutes les chose vivante. Et en 20 mois, cette personne a inversé 50 ans de réglementation écologique. Et il a ouvert la porte à l'utilisation et la déforestation d'énormes parties du territoire.
Votre livre est un livre politique, Richard Powers, en ce sens que c'est un roman qui met au cœur de son histoire des arbres et la protection des arbres. Il s'appelle L'Arbre Monde, c'est le nom, en tout cas, qu'on lui a donné dans sa traduction française. Il s'agit donc de l'histoire de 9 personnages qui vont s'unir pour la protection d'un séquoia géant. Et justement, cet été, il y a eu des incendies aux États-Unis avec une réponse un peu particulière de Donald Trump, puisqu'il a suggéré que s'il y avait moins d'arbres, il y aurait moins d'incendies. Est-ce de la provocation? Est-ce ce que pensent certains Américains?
Mais à nouveau, ici, on a l'exemple de quelqu'un qui veut absolument faire porter le tort à la victime. Face à une transformation du climat américain, du climat du globe, non seulement il nie le rôle de la responsabilité humaine, mais face à des feux perpétuels, il n'y a plus une saison d'incendie, on a des incendies à répétition, sans fin. Face aux tornades qui sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on a jamais vu, aux cyclones, il continue de dire que le problème est trop de réglementation environnementale. Si on avait coupé ces arbres, il n'y aurait pas ces conditions pour des incendies de forêt. Je répète que je crois que c'est la même substance qu'un homme qui dit « Une fois que vous êtes au pouvoir, vous pouvez attraper les femmes avec impunité. Nous pouvons faire à la nature ce que moi, je crois que j'ai le pouvoir de faire aux femmes. »
Et
quand il appelle de façon pas tellement cachée à la suprématie blanche, ça fait partie du même paquet.
Et d'ailleurs, dans votre livre, L'Arbre Monde, Richard Powers, vous évoquez la manière dont l'industrie forestière est devenue un business extrêmement important. Je vais lire un extrait. C'est un extrait de dialogue. Les gens se rendent pas compte. Tu sais qu'avec le bois, on fait du shampoing, des vitres blindées, du dentifrice. Bah non, je savais pas. Du cirage, de l'épaississant pour crème glacée. Et des maisons aussi où je me trompe. Des bouquins, tout ça. Des bateaux, des meubles. Les gens se rendent pas compte. On est encore à l'âge du bois. C'est le moins cher des trucs précieux qu'on n'ait jamais trouvé. Richard Powers.
That's part of our blindness.
Ouais, ça fait partie de notre aveuglement.
There's a beautiful phrase.
Il y a une merveilleuse phrase qui est attribuée au Bouddha.
He says, a tree gives
un arbre donne de la nourriture, un abri et de la substance et de l'ombre, même à la personne qui le coupe. Cet aveuglement, cette aliénation que nous avons vis-à-vis ces créatures qui ont rendu la civilisation possible, qui ont rendu possible l'humanité telle que nous la connaissons, et c'est le sujet de cette bataille qui prend place dans ce livre entre ceux qui voudraient conserver les derniers vestiges des forêts primaires. La nécessité de considérer les arbres comme faisant partie de notre propre histoire. À un moment, il y a un personnage dans le livre qui dit « On ne dit pas « ne coupez pas les arbres ». On dit « Ne pensez pas qu'ils vous appartiennent. Ne pensez pas que ces créatures ont été placées sur Terre pour être votre ressource. » Coupez-les, abattez-les comme une véritablement comme un don. Personne ne voudrait absolument gâcher tous les dons.
Les forêts primaires, je crois qu'il n'y en a quasiment plus en Europe. Il me semble qu'il en reste en Pologne. En revanche, aux États-Unis, il y en a encore. Je crois même que vous habitez à côté d'une forêt primaire, Richard Powers.
J'étais absolument étonné de découvrir que de ces quatre forêts primaires qui couvraient l'Amérique, quand les Européens sont arrivés, seuls restaient 2%. Et encore plus étonné de découvrir que on continuait de couper encore dans ces deux derniers pourcents. Nous sommes à un point de l'histoire où on aurait dû déjà apprendre la leçon. Il n'y a pas un Européen qui n'est pas nostalgique de cet héritage. Cette semaine que je viens de passer en Europe, il y a des histoires qui me viennent d'Allemagne, de gens qui tentent de sauver des forêts. Il y a eu un mort dans cette confrontation en Allemagne aussi. En cherchant, en faisant ma recherche sur ce livre, je me suis rendu compte que s'il y a un désir de voir une forêt intacte, à quoi ça ressemble à l'arrivée des Européens en Amérique, il faut aller dans les Great Smoky Mountains, dans le sud-ouest, pour voir véritablement cette forêt primaire. Je l'ai fait comme partie de ma recherche, et quand j'y suis allé, j'étais étonné. Je n'avais jamais vu une forêt telle que celle-là. Elles sont différentes, elles sentent de façon différente. Et je me suis dit, je me sens en bonne santé, je me sens sain ici. Et quelques mois plus tard, j'y pensais encore et je me suis dit, je vais déménager, je vais vivre ici. J'ai acheté une maison et j'y vis depuis.
Mais alors justement, une forêt primaire, donc c'est une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme. Comment la reconnaît-on dans les forêts que l'on voit par exemple en France? La plupart ont des arbres réguliers, c'est la même espèce d'arbre. Là, est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi ça ressemble, une forêt primaire?
Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire la différence et pour vous dire qu'il y a une différence. L'une des plus évidentes, c'est que dans une forêt moderne, c'est que la coupe a eu lieu au même moment et que ça a été replanté au moment. Donc tous les arbres auront le même âge, la même taille. Il y aura une uniformité d'essence et de densité. Mais quand vous allez dans une forêt primaire, je peux vous dire que on n'a pas besoin d'être expert en arbres pour être immédiatement impressionné par la différence de sentiment. La lumière y est différente. Il y a des espaces ouverts et des espaces plus denses parce que dans une forêt primaire, lorsque les anciens arbres peuvent vivre jusqu'à pleine maturité, quand un géant tombe, ça fait un trou dans la forêt, ça crée de la lumière pour les générations suivantes. Et donc une forêt primaire va passer des tout petits arbres à des arbres énormes. Et là où je vis, il y a 8 ou les arbres font de 8 à 10 mètres de circonférence. Il y a aussi une biodiversité accrue. On le voit immédiatement que dans les endroits où il y a un petit nombre d'espèces, on en voit un très grand nombre d'essences, pas simplement d'arbres, de plantes, mais de vertébrés. La vie y revient, et la vie est beaucoup plus dense dans ces endroits-là. Et ça vaut la peine de dire que on n'a jamais vu une forêt de deuxième croissance revenir à la richesse, à la diversité et à la complexité d'une forêt primaire. Il pourrait que ça se produise dans 1000 ans, mais on ne sait pas. On ne l'a jamais vu se produire.
Ça fait longtemps, en tout cas, qu'aux États-Unis, on fait, comme vous le faites, Richard Power, c'est-à-dire qu'on considère que les arbres sont des hommes, il y a des séquoias géants à qui on a donné un nom, je crois qu'il y a le général Sherman, je ne sais plus si c'est un séquoia, je crois qu'on le trouve à Yellowstone, en tout cas dans un parc national aux États-Unis. Il y a une manière, effectivement...
C'est dans le Yosemite.
Un autre parc national. C'est une manière, en tout cas, de faire de l'anthropomorphisme, mais justement dans ce roman, L'Arbre-Monde, il y a aussi une manière de considérer que les êtres humains ont des racines, des rhizomes, comme les arbres, qu'il y a une communication par eux, une transmission, un peu à la manière d'une forêt. Et d'ailleurs, neuf personnages qui donnent pour certains naissance à des arbres, c'est aussi une métaphore de la forêt.
Oui, ça peut sembler être quelque chose de l'imaginaire. Ou vraiment un excès de dire pourquoi est-ce qu'on ne traite pas les arbres avec le même respect et les mêmes normes légales que celles que l'on accorde aux gens. Certaines personnes disent que c'est une position politique extrémiste. Mais écoutez, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'étendue de la personne légale à des entités dont on dit aujourd'hui, mais bien sûr, ce sont des individus. Bien sûr, ils doivent avoir une existence juridique. Par exemple, les enfants, par exemple, les femmes, par exemple, d'autres races, par exemple, les vieux, des gens qui sont mentalement handicapés. Tout cela, aujourd'hui, ont une existence légale. Bien sûr, ils ont une personnalité juridique. Mais il y a un problème avec le système juridique qui dit on ne peut porter plainte que lorsque un être humain a été endommagé, a eu un dommage, a souffert une perte ou a été blessé. On ne peut pas poursuivre au nom de la forêt, au nom de la montagne, au nom de la rivière. Quoi qu'il se passe à l'avenir, il faut comprendre que, bien sûr, on pourrait porter plainte au nom d'un écosystème, parce que nous faisons partie de l'écosystème. Notre avenir est totalement lié à la complexité de ces écosystèmes. S'ils n'ont pas de personnalité juridique, à ce moment-là, nous, on n'a pas de personnalité juridique.
Mais alors, un forestier allemand, Peter Wohlleben, que vous avez peut-être lu, qui a écrit sur la forêt, explique que les arbres ressentent la douleur, qu'ils communiquent justement par le biais de ces rhizomes, du mycélium, ces filaments de champignons blancs que l'on trouve dans les forêts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui vous promenez en forêt? Je crois que maintenant que vous habitez à côté d'une forêt primaire, Richard Powers, vous faites de longues balades, vous écrivez moins, dites-vous, mais je marche plus.
Yes, that's been the eye-opening discovery.
Ça a été la découverte de ce que l'on appelle la nouvelle forêt primaire. La vaste complexité et subtilité du comportement des arbres, le fait qu'ils partagent tellement des choses que nous pensions étant du domaine exclusif des êtres humains. C'est notre préjugé cognitif qui nous a empêchés de voir la complexité des arbres. Vous avez mentionné la communication entre les arbres. Lorsqu'un arbre est attaqué par des insectes, il envoie un signal chimique d'alarme qui fait que les autres arbres commencent à émettre des produits chimiques pour éloigner les insectes. Ils partagent un système d'immunité, immunitaire entre eux. Et il y a ce système souterrain d'échange de nutriments et de médicaments. Par exemple, un grand arbre pourra protéger un petit arbre en vie pendant des décennies. Il faut comprendre que dans une forêt, il n'y a pas d'individus, il n'y a que des réseaux, il y a une communauté, une société profonde de choses vivantes. Une fois qu'on commence à le voir dans la forêt, on peut commencer à nous souvenir que ça existe dans le monde aussi. Il n'y a pas d'individus dans le monde, il n'y a que des réseaux de gens, d'individus interdépendants, vivants, et nous en faisons partie.
Vous avez dit que vous avez écrit là un livre politique, que vous en avez hâté la publication du fait de Donald Trump et de son discours hostile à l'écologie. Et dans ce livre, il y a des militants. Alors, en France, on les appelle des zadistes. Ils s'opposent à la police. Je ne vais pas déflorer l'issue du livre, mais on voit malgré tout où votre cœur balance. Comment vous les voyez justement, ces gens qui sont prêts à défendre des arbres, sont prêts à défendre de la nature? On les connaît bien en France, puisque il y a eu par exemple à Notre-Dame-des-Landes des activistes tels que ceux que vous décrivez dans votre livre, Richard Powers. Il y en a actuellement en Allemagne. Vous êtes de leur côté?
There is a great tradition in une grande tradition dans le fait de poser la question de la responsabilité aux États-Unis. Dans le programme, vous avez parlé de l'écrivain William Thoreau, son grand livre, La désobéissance civile, qui a influencé Gandhi, Martin Luther King. Et sa position centrale, c'est que si la loi elle-même est immorale, êtes-vous contraint de vous soumettre à la loi. Et mon livre ne dit pas finalement est-ce que ces activistes sont des héros ou est-ce que ce sont des gens qui ont raté leur vie. Non. Si vous arrivez dans une question complexe et que ce personnage fait face à la même confusion, même étonnement, et qu'il faut poser les questions de Thoreau. Sommes-nous contraints de rester des citoyens obéissants à la loi lorsque la loi permet et encourage même cette destruction massive de quelque chose qui a tellement d'intérêt et tellement importante pour notre bien-être?
Mais c'est quand même assez paradoxal, parce que aux États-Unis, on reconnaît la nature depuis longtemps. Alors je sais, ça peut surprendre, mais il y a beaucoup plus d'écrivains qui aiment la nature. Surtout, vous avez les parcs nationaux. Vous avez été les premiers à en avoir. Ce sont un peu vos cathédrales. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose dans la nature qui doit être protégé, et qu'il est beaucoup plus qu'en France, puisque par exemple, dans vos parcs nationaux, on ne peut pas construire. C'est vraiment un domaine qui doit demeurer préservé. Ça veut dire que vous, les Américains, vous êtes aussi les premiers écologistes.
Oui, mais n'oubliez pas qu'au cours de la dernière année, nous avons une administration qui a rouvert certains de ces terres publiques, certaines de ces cathédrales à l'exploitation, à un prétendu développement. Des parcs qui ont été désignés comme trésors nationaux, intouchables, sont maintenant ouverts aux entreprises de mines et à la déforestation. C'est une histoire schizophrène, hein, l'histoire américaine. On connaît les besoins pour l'humilité face à la nature, mais qui veut toujours continuer cette croyance que l'on peut contrôler, maîtriser, dominer et être séparé du monde vivant. Cette histoire est écrite en ce moment même. C'est écrit tous les jours, dans tous les lieux du pays. Et j'espère que ce roman sera une façon pour que les gens voient de façon émotionnelle d'arriver à se rendre compte de ce qui se passe dans le monde extérieur, le monde qui est décrit dans le livre et de fermer cette dernière page du roman et de dire « c'est pas une fiction, voilà où nous en sommes ».
Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire selon vous, Richard Powers?
La première étape est d'arrêter, de s'arrêter et de regarder. Il faut comprendre, avec tous les outils à notre disposition, est-ce que c'est la recherche scientifique, est-ce que c'est le travail imaginatif des artistes, des écrivains, des peintres, ne voyons-nous pas qui nous sommes, ne voyons-nous pas les choses à côté desquelles nous passons tous les jours? Quand un lecteur m'écrit aujourd'hui en me disant « Je viens de lire votre livre, je ne verrai jamais les arbres de la même manière, je crois que j'ai réussi, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Regardez, simplement regardez, il y a des miracles tout autour de vous que vous n'avez pas vus, regardez-les.
Vous avez dit, Richard Powers, que tous vos livres dialoguaient les uns avec les autres. Donc là, dans L'Arbre Monde, vous avez... innover dans un genre, dans votre bibliographie, puisque c'est votre première éco-fiction en quelque sorte, ou éco-roman, comme vous voudrez. Comment ces livres sont-ils liés entre eux? Le livre qui évoque le racisme aux États-Unis, le livre qui évoque la paranoïa post-11 septembre, quel rapport y a-t-il entre ces différents ouvrages?
The link is a simple one.
C'est un lien très simple.
There is much more to us than
Il y a beaucoup plus de choses qui font partie de nous que nous en pensons. La relation entre les êtres humains et les non-humains est beaucoup plus compliquée et nécessaire. Et chacun de ces livres envoie un message très simple. Vous êtes fait, pas simplement de vous, mais de une grande communauté de choses auxquelles vous ne faites pas attention. L'autre, le non-humain, l'extérieur, n'est pas effrayant et pas inimportant pour vous. Non, votre histoire est très importante. Et comme Walt Whitman l'a dit, je suis vaste, je contiens des multitudes.
On a beaucoup parlé de forêts, de rhizomes, de mycéliums, de réseaux. Vous avez dit, voilà, l'existence, elle n'est jamais individuelle. Vous, en tant qu'écrivain, par exemple, qui sont ceux qui vous nourrissent? Alors, on a parlé de Thoreau, vous venez de parler de Whitman. Quels sont les autres noms, puisque vous venez pour ce festival America qui se tient à Vincennes, qui sont vos pères, ceux que vous lisez?
Il y en a tellement, c'est difficile même de commencer à faire une liste.
Ceux que vous ne citerez pas, vous pardonneront, Richard.
J'en choisirai un. Et je crois que c'est pas simplement quelqu'un de très profond sur le plan scientifique, mais un esprit profond pour se rattacher au monde vert, au monde vivant. Robin Wall Kimmer. Elle est à la fois... c'est une botaniste de renom, un docteur en botanique, la science des plantes, mais c'est aussi une amérindienne.
Et
elle a écrit un livre sur le fait de tresser des herbes. Et elle tente d'unifier dans son livre son héritage en tant qu'américaine native et son héritage en tant que botaniste. C'est un merveilleux livre, c'est un livre qui changera votre compréhension de la botanique, mais qui va aussi changer vos relations spirituelles au monde vivant.
Richard Powers, L'Arbre Monde, s'est publié aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre qui est traduit par Serge Chauvin. Vous avez été traduit par Maître Zlotowski.